Gameblogueuse, Gameblogueur, bonjour et bienvenue dans le nouveau podcast de la rédaction. Avec moi aujourd'hui, nous avons Romain.
Salut, salut.
Nous avons Camille.
Salut.
Et nous avons Johnny One.
Bonjour.
Ouh, pas mal cette petite voix de crooner pour
bonjour,
ce podcast. Actualité sur lequel nous allons revenir sur pas mal de choses parce que le mois de mars, on croyait qu'après Zelda Horizon et la sortie de la Switch, ça allait être fini ou alors ça allait se calmer. Rien du tout. C'est encore bien emballé cette semaine et on va en parler avec vous. Les thèmes de la semaine, nous aurons Battlefield 1, le test du DLC Zeschol Notepass, vous savez le DLC de l'armée française est arrivé. Alors, du moins pour les personnes.
Ne passeront pas, n'est-ce pas ?
Du moins pour les personnes qui ont le Season Pass de Battlefield 1, il sortira un peu plus tard pour les autres. On va en parler, on va savoir si vraiment ça vaut le coup de se le procurer et de pouvoir enfin jouer avec l'armée française. On parlera ensuite de Too Dark, le nouveau jeu de Frédéric Reynal qui est sorti lui le 10 mars sur PC, PS4 et Xbox One. Savoir si Frédéric Reynal a toujours la Magic Touch, la Magic French Touch même j'ai envie de dire. On en parle tout à l'heure avant de revenir sur Mass Effect Andromeda puisque vous l'avez vu là, si vous êtes premium vous voyez, il n'y a ni Julo ni Julien. Donc ça veut dire que Johnny One peut parler de Mass Effect Andromeda tranquillement. Voilà, il va vous en parler avant le test. Dernières impressions de Johnny. Et puis on reviendra encore une fois avec Johnny bien sur l'événement qui a eu lieu il y a quelques jours à Paris, la Coupe de France de Street Fighter V, une compétition par équipe de 5 joueurs qui s'est déroulée donc à Paris et qui
au
s'est
Grand
très
Rex.
Bien. Voilà, c'était au Grand Rex absolument. Et tu vas nous faire un petit récap de la journée avant que on vous diffuse évidemment le reportage complet. Mais avant ça, Romain, je me tourne vers toi, parce que tu es chargé cette semaine du win et du fail.
Très bien.
Et que c'est une lourde responsabilité, est-ce que tu vas réussir à l'assumer ?
Eh bien, je vais faire en sorte que, et si ce n'est pas le cas, bah, je prendrai l'entière responsabilité de mon échec.
Nous verrons ça à la fin du fail, donc. Mais on va commencer avec le win. Qui c'est qui a gagné cette semaine d'après toi, Romain ? Enfin, d'après nous, en fait.
Alors, le win de cette semaine, et oui. Je ne pensais pas dire ça un jour, c'est...
Évidemment, ce n'est pas une opinion politique qui va être émise là.
En toute neutralité, oui. C'est Jean-Luc Mélenchon, parce qu'il est venu encore une fois clamer publiquement haut et fort son amour des jeux vidéo et son amour du travail effectué par les créateurs de jeux vidéo d'une manière générale. Alors même si on sait que dans les médias grand public, hein, pas chez nous évidemment, mais dans les médias grand public, les jeux vidéo sont, on sert souvent de bouc émissaire pour diverses catastrophes, tueries et autres joyeusetés de ce genre. Et ben Jean-Luc Mélenchon, lui, il a tenu à dire que c'était des gens tout à fait équilibrés et beaucoup plus âgés que ce qu'on imagine qui jouent aux jeux vidéo. Il a rappelé la moyenne d'âge de 35 ans pour les joueurs de jeux vidéo.
Ouais.
Et il a encore mis en avant le travail effectué, par exemple, par Ubisoft sur Assassin's Creed Unity.
Il a encore nuancé par rapport à l'époque où il avait fustigé le jeu en disant que les révolutionnaires étaient très mal montrés dedans, alors qu'il n'avait pas encore joué d'ailleurs.
En fait, il dit que les révolutionnaires sont présentés comme des nuls dans le jeu, donc il est toujours pas d'accord avec la vision de l'histoire montrée dans ce jeu, mais en revanche il est admiratif du travail effectué sur la reconstitution de la France,
sur la technologie
l'aspect visuel et technique du jeu. Donc lui ce qu'il veut c'est un centre national du jeu vidéo en France, parce que même si on sait que le CNC donc qui s'occupe principalement
cinématographique,
du ciné s'occupe également du jeu vidéo, mais là il voudrait vraiment un organisme spécialisé là-dedans. Il veut aussi développer la filière jeu vidéo en France,
trouver des moyens de financement.
Il veut pas la fuite des talents vers l'étranger. Il veut aider les sociétés du jeu vidéo françaises à se développer, à gagner plus d'argent, etc.
Donc en fait ce qu'on retient surtout c'est que c'est le seul candidat, comme le rappelle d'ailleurs la journaliste d'Europe 1 qui l'interview à ce moment-là, c'est le seul candidat en fait qui a quelque chose à dire sur le jeu vidéo finalement, parce que
pour l'instant en tout cas.
Voilà, pour l'instant. Bon, j'imagine qu'Emmanuel Macron avec sa French Tech devrait y arriver à un moment. En plus, il avait été modélisé dans Fallout 4, donc ça pourrait arriver. mais bon, pour l'instant en tout cas, lui a l'air de prendre la chose vraiment au sérieux, même si moi je me fais toujours rire quand il dit les jeux 3D au lieu de dire la réalité virtuelle. Mais on sent qu'il y a une volonté de vouloir rechercher quelque chose pour le jeu vidéo, c'est déjà ça.
Alors je peux pas m'empêcher de voir ça comme une stratégie. Je pense que quand il s'est soulevé contre Assassin's Creed Unity, il a vu les retombées immédiates que ça a eu et il a dû se rendre compte via les réseaux sociaux, via internet,
via son équipe aussi hein.
Et peut-être via son équipe aussi que les joueurs étaient très sensibles. On a pu remarquer dès que les médias s'attaquent, même quand ils ne s'y attaquent pas mais que c'est perçu comme une attaque, les joueurs sautent à la gorge immédiatement et ils sont nombreux
et en masse.
Il y a un effet de masse qui est immédiat, donc il s'est peut-être dit il y a un public à séduire.
Plus Jean-Luc Mélenchon il fait des appels donnés au forum jeuxvideo.com depuis depuis quelques temps,
il en fait des petits clins d'œil
et donc là on sent un peu la stratégie quand même. Je trouve que ça, alors je suis très content de voir quelqu'un qui dit du bien des jeux vidéo, mais je trouve que ça manque un petit peu de sincérité. Je trouve que c'est un peu exagéré. D'un seul coup,
ce qui n'était pas exagéré, c'était la vidéo justement qu'il avait fait sur YouTube où il expliquait quand qu'il est allé à Angoulême, qu'il avait essayé un casque de réalité virtuelle et qu'il avait trouvé ça mortel. Aussi le fait que l'organisation dans un studio de jeux vidéo lui avait beaucoup plu dans la façon dont communiquaient les différents départements. Ça au moins, on ne peut pas dire qu'il l'a faim.
Après, mieux vaut tard que jamais. Parce que s'il était vraiment admiratif depuis si longtemps, pourquoi il n'en a pas parlé avant?
Mais attends, demain peut-être Jean-Luc Gamer sur YouTube, le gamer insoumis,
il va partager son gamer tag et
son idée PSN.
Tu vois, demain il va tweeter son code ami Switch.
Tu vois, Marxist Gamer, un truc comme ça quoi. Tu vois, tout est possible. Vraiment, je pense que.
Lenin Forever.
Exactement.
Platine d'Assassin's Creed Unity.
Ah ben non, mais tout est possible. Vraiment, tout est possible.
Ouna, il va terminer intégralement Staline versus Martians, qui était un RTS horrible sorti sur PC il y a genre 7-8 ans ou un truc dans le genre.
Ça me dit rien du tout ce genre de
choses. Tu chercheras, c'était un grand jeu.
Ok, et bien on va passer au fail du coup maintenant, qui là te touche beaucoup plus près je pense.
Et bah ça me touche beaucoup plus.
Ça t'émeut même.
Ah oui, j'étais bouleversé. Parce que, mais vraiment au bord des larmes. Hein, parce que un des mystères qui restait après avoir joué à Resident Evil 7.
Surtout après l'annonce du DLC, pour être exact.
J'ai rien dit.
Voilà.
Non, alors oui.
Alors, n'oubliez oubliez tout ce qui a été dit juste
avant. Je m'en vais. Je suis vraiment désolé. Ça sera sûrement
la raison pour laquelle tu vas quitter ce podcast.
C'est sorti tout seul. Enfin, oui. Quand Capcom a annoncé le DLC Not a Hero de Resident Evil 7, ils ont annoncé que le protagoniste de ce DLC serait Chris Redfield, héros historique de la saga Resident Evil, mais par contre, avec une tête totalement différente de celle qu'on lui connaissait depuis plusieurs années. C'est la tête que vous pouvez voir à gauche de cette image. Et donc, plein de théories ont été évoquées. Est-ce que c'est le vrai Chris Redfield? Est-ce que c'est un clone?
C'est un spoiler ça. Mais
on spoile pas. Pas de spoil ici, monsieur.
On avait fait une émission spoiler là-dessus. Si vous voulez plus de détails, allez la regarder. Donc, on se disait que se passe-t-il avec Chris Redfield? Eh bien, Capcom Japon, visiblement pas au courant de toutes ces interrogations, etc., a balancé un article tout simplement cette semaine sur son site officiel dans lequel des développeurs du jeu parlent de divers sujets, dont l'apparence de Chris Redfield dans Resident Evil 7. Donc ils ont été directement au fond de la chose et ils ont expliqué tout simplement que s'ils avaient changé l'apparence de Chris Redfield, c'est par désir de photoréalisme. Ils expliquaient que pour tromper l'œil du joueur dans ce nouveau jeu, ils ont utilisé un type de graphisme photoréaliste. C'est le terme employé par Capcom. Hein. Qu'en prenant le modèle de Chris tel qu'il apparaissait dans Resident 5 ou Resident 6, ça jurait avec le reste, ça ne collait plus visuellement. Donc ils ont dû chercher un nouvel acteur, le scanner et donc créer un nouveau Chris Redfield plus réaliste pour Resident Evil 7. Donc cette déclaration et cette révélation suppriment tout un nombre de théories et d'évolutions potentielles du scénario dans Resident Evil 8 par exemple. Donc ça a supprimé certaines interrogations. Il y en a d'autres qui subsistent malgré tout. Ça, je vous invite à regarder l'émission spoiler. Pour savoir pourquoi. Mais en tout cas, je suis content malgré tout que qu'un éditeur réponde aussi clairement à une question, alors que finalement ils auraient pu en jouer. Je sais pas si leur scénario pour Resident 8 est déjà prêt ou quoi que ce soit, mais ces théories auraient pu, comment dire, les mener vers un autre type de scénario, alors qu'en fait non, ils ont décidé de rester dans leur truc. Ils expliquent qu'en fait c'est juste un choix technique, le changement de visage de Chris, et rien de plus.
Artistique. Donc, aussi, un petit peu peut-être.
Oui, artistique et technique, c'est ces deux éléments là et donc voilà pourquoi. Évidemment, dans les commentaires, des gens ont à juste titre rappelé que niveau photoréalisme, on a déjà vu mieux quand même. Mais
je suis pas très convaincu par leur explication non plus, pour tout avouer.
Il est plus réaliste que que l'ancien Chris. Et même les proportions sont plus réalistes. Mais alors de là à dire photoréaliste, de toute façon les jeux vidéo ne sont pas encore techniquement capables de faire du photoréalisme, donc on en est encore loin. Mais donc voilà pour Chris.
L'important, c'est qu'ils gardent, s'ils refont Jill Valentine, c'est qu'ils gardent Julia Vogt.
Pour le coup, ils pourraient maintenant, ça, puisque c'était une vraie comédienne scannée. Ils pourraient la faire de manière à ce qu'elle soit encore plus ressemblante à Julia Vogt.
Espérons,
En tout cas, on sait que s'il y a une pétition qui se crée pour le maintien de Julia Vogt dans Resident Evil, il y aura au moins deux signatures.
Trois, pas de doute. Julia, si tu nous regardes,
tu modes les mots de la bouche.
Elle a répondu à un de mes tweets. Je sais plus c'était quoi la réponse.
Mais elle nous adore. Elle nous regarde depuis le Canada. Elle nous suit.
Je l'ai eu
au téléphone il y a deux jours. Non, je plaisante évidemment.
Elle dit plus mot, tu feras une bise. Tu feras une bise à la.
Tu claques la bise aux autres et puis je passe dans pas longtemps.
Imagine si elle était canadienne francophone, on pourrait même l'inviter à un podcast.
Attends, quand elle nous avait répondu, non, elle parlait
D'un côté, on n'a pas essayé de lui parler en français.
Ouais, mais je sais plus.
Mais je pense qu'elle est anglophone. De toute façon, Julia Voss, ça sonne pas francophone.
Ou, tu sais, Gianni Molinaro, ça sonne pas francophone non plus. Hein.
N'est-ce pas ?
On va arrêter avec ces vannes-là. D'ailleurs, du coup, je t'expulse, tout simplement, de ce podcast.
Carton rouge.
Carton rouge, Romain, il ne fallait pas faire de vannes.
On a parlé de l'extrême droite, il faut un peu parler de l'extrême gauche aussi.
On l'a fait ?
De l'extrême gauche, il faut aussi parler un petit peu de l'extrême droite.
Tu t'y perds, tu vois, c'est
ça, machin. Non, stop, pas de politique ici, on arrête la politique.
Salut à tous, on se revoit bientôt dans un podcast. Une vidéo.
Évidemment, Romain, tu reviens
quand tu veux. Excellent podcast à vous.
Merci.
À bientôt.
Merci.
Ciao. Merci pour ce win et ce fail à base de voix de Jean-Marie Le Pen à la fin. On va pouvoir passer maintenant au thème de la semaine, messieurs, dames. On va passer d'abord à Battlefield 1. They shall not pass. Donc, qui n'a pas été traduit en Ils ne passeront pas.
On va parler du maréchal Pétain en plus.
Maréchal Pétain, héros de la première guerre.
C'est le seigneur des anneaux, ça.
Oui, enfin, tu sais, c'est nos passerelles, les trucs, ce genre de trucs comme ça, tu le vois partout. Mais donc, c'est vous ne passerez pas en fait dans le Seigneur des Anneaux. Attention, quand Gandalf il tape son bâton comme ça et qu'il s'adresse à la grosse bestiole qui est un Balrog.
Balrog, ouais.
Ouais, voilà. Il dit vous ne passerez pas. Et puis il le répète et puis il le défonce.
Tu vois, pour moi, ça ressemblait à Diablo. Voilà.
Oui, c'est vrai, il avait une des petites airs de Diablo. Bref, rien à voir. Donc, The Shall Not Pass qui est arrivé le 10 mars, donc pour les détenteurs du Season Pass. Le 14 mars, pour les détenteurs du Season Pass de Battlefield 1, et qui arrivera le 28 mars.
Exactement.
Pour les autres, donc, qui auront eu l'envie de payer 14,90€ pour se le procurer. Ce premier DLC, on l'a présenté comme le DLC de l'armée française. Est-ce que, du coup, l'armée française est bien intégrée ? C'est un DLC qui est essentiellement orienté multi.
Alors oui, ça va être le principal problème d'ailleurs qu'on va évoquer, c'est que le jeu, enfin ce DLC est principalement multijoueur, même il est que multijoueur, et c'est en fait c'est le gros défaut, c'est-à-dire que beaucoup de gens s'attendaient à ce qu'il y ait au moins une War Stories, donc les War Stories, vous savez, ce sont ces campagnes qui reposent sur un personnage, puisque tous les autres pays finalement ont eu droit à ça dans le jeu de base. On se demandait sauf la France et la Russie, est-ce qu'on aurait le droit à ça, et finalement non, en fait c'est vraiment purement multijoueur. Battlefield, ça reste quand même un jeu, quoi qu'on en dise, qui reste multijoueur, malgré sa campagne solo, malgré ses qualités, malgré ses défauts, ça reste un jeu, à dire 90% multijoueur.
C'est pas Poufy qui nous contredira là-dessus, je pense. Il me contredit.
De toute façon, c'est pas possible à contredire. C'est l'ADN de la série Battlefield depuis Battlefield de 1942. Enfin, ça a pas changé du jour au lendemain. Contrairement à Call of, qui a quand même une grosse partie solo, c'est pas le cas pour Battlefield. Donc oui, donc ce DLC apporte quand même pas mal de choses. il a pas que des points négatifs, hein, il a quand même beaucoup de points positifs. Il a d'ailleurs reçu la note de 7 sur 10.
C'est vrai, tu lui attribues un petit 7, c'est bien.
Qui est quand même, bah, c'est la définition du bon jeu. Voilà, c'est un bon DLC. Encore une fois, Poufy, je pense pas qu'il nous contredira là-dessus. Alors pourquoi c'est bon? Tout simplement puisque déjà on est quand même assez fier que ça traite de l'armée française.
Enfin oui.
Parce qu'on aura on dira ce qu'on voudra, la France est quand même très peu traitée finalement dans les jeux vidéo. Donc on regrette toutefois qu'elle l'ait pas été dès le jeu donc en Vanilla, le jeu de base. On peut se demander pourquoi ce choix là, pourquoi maintenant? Alors bon, eux ils ont dit pour faire du fric, leur annonce officielle, c'est que voilà, c'était tellement important qu'il fallait que ça soit dans un DLC parce que voilà, ça sera uniquement là-dessus et du coup, ça sera plus à sa juste valeur. Donc pourquoi pas, après on interprète ça comme on veut. En tout cas le jeu il a quand même des très bonnes qualités. Donc les qualités principales déjà ce sont les maps, 4 belles maps qui reprennent les batailles essentielles donc de la Première Guerre mondiale. On va retrouver la bataille de Verdun, ouais. On va retrouver la bataille de la Somme, etc. Le fort de Vaux donc qui fait partie de la bataille de Verdun. Donc on va trouver des maps comme là qui sont vraiment très belles. Enfin pour moi en tout cas ça va vraiment même été les plus belles maps de Battlefield actuellement. On a d'ailleurs une map que vous avez pu voir dans les nombreux screenshots qui ont été publiés, d'un magnifique champ de coquelicots. Alors bon c'est un détail hein, mais ça a quand même son importance dans l'immersion du jeu. C'est vraiment pas mal et puis ça donne lieu à de nombreuses possibilités tactiques puisque en plus le jeu se concentre majoritairement sur du combat d'infanterie. Alors vous inquiétez pas, il y a quand même des chars d'assaut mais il n'y a pratiquement pas d'aviation. Dans la plupart des modes de jeu, c'est vraiment majoritairement infanterie. Et du coup, ça permet aux développeurs de nous proposer des maps avec des tranchées. Ce qui n'a pas forcément été énormément le cas dans le jeu de base, à part Saint-Quentin et quelques autres maps qui étaient. Il y avait un peu de tranchées, c'était vraiment assez sporadique. Là, c'est pas du tout le cas. On va avoir beaucoup de tranchées sur toutes les maps, en fait. Notamment, évidemment, Verdun, qui est assez impressionnante avec son incendie tout autour du fort, etc. Enfin, c'est assez splendide. Le moteur Frostbite, encore une fois, fait des merveilles. Et du coup, voilà, les maps, pour le coup, on n'a vraiment rien à redire, d'autant qu'il y a un nouveau mode de jeu qui est sorti avec, qui s'appelle Ligne de Front, et qui, en plus, a la bonne idée de s'intégrer parfaitement à l'idée de la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire que ça reprend en fait le principe du mode ruée et du mode conquête. Donc mode conquête c'est le mode donc basique capture c'est de la capture de drapeau, de la capture de zone, et le mode ruée qui consiste à faire un push pour aller détruire donc des dans Battlefield 4 c'est des ordinateurs, là ce sont des opérateurs radio, des radios tout simplement. Et du coup, ce mode ligne de front, vraiment un mix des deux. C'est-à-dire qu'on va devoir pusher le drapeau adverse. En fait, c'est un peu un mode conquête, mais avec un seul drapeau à la fois. C'est-à-dire qu'on capture un drapeau, ensuite, une fois qu'il est capturé, on va se concentrer sur suivant, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Évidemment, l'équipe adverse est censée, donc selon sa position, de défendre ou attaquer.
En fait, on fait reculer les lignes au fur et à mesure.
Et ce qui donne lieu à des choses assez tactiques, c'est-à-dire que au cours du jeu, on peut par exemple penser que notre équipe a perdu parce que l'équipe ennemie progresse pratiquement jusqu'au dernier drapeau, et au dernier moment, notre équipe va reprendre le dessus et refaire un push sur le drapeau adverse, et ça va donner lieu comme ça à un.
C'est l'espèce de bras de fer en fait.
Voilà, c'est un bras de fer, ça devient un jeu de ping-pong jusqu'au bout, jusqu'aux dernières secondes finalement, on peut encore remporter la victoire, et c'est beaucoup plus clair que certains autres modes de jeu qui sont. Qui ont ses défauts et leur qualité. Là c'est vraiment pour moi que de la qualité, que du positif. C'est d'ailleurs principalement le mode de jeu à mon avis qui va le plus plaire aux joueurs finalement dans tout l'ensemble du jeu, puisque pour l'instant il a eu d'ailleurs, enfin quand on jette un œil sur les forums, c'est vraiment le mode de jeu qui a réussi à faire lever les foules et positivement. Donc voilà, c'est un très très bon mode de jeu, une très bonne idée. On a aussi évidemment des nouvelles armes. Sous moi je t'ai coupé.
Ah non, mais j'allais te demander l'intégration de l'armée française, du coup parce qu'elle a des spécificités.
L'intégration de l'armée française déjà elle se fait donc via c'est son champ d'action, donc via ses maps. Elle se fait aussi via ses armes. On a droit à 6 nouvelles armes.
Les classes, c'est toujours les mêmes?
Non, les classes, c'est toujours les mêmes. Ça n'a pas changé. La seule différence, ça va être. Alors, il y a une nouvelle classe élite. Alors, je ne m'appelle plus exactement du nom, mais ça va être une classe élite qui se charge notamment de nettoyer les tranchées. Donc, c'est plus du combat au corps à corps. On peut le voir notamment dans le trailer. Il a un masque de tranchées et une matraque. Et ça va être. Voilà, principalement ça, la seule niveau de classe qui va être changé. Sinon on va évidemment avoir droit à des changements de skin pour chacune des classes. On va pouvoir admirer le fameux uniforme bleu horizon qui est arrivé dès 1915. Et du coup, à ce niveau-là, c'est pareil, c'est un beau travail qui a été fait. Après, au niveau des armes, alors on retrouve des armes françaises. Elles sont pas toutes forcément très très utiles. On va avoir l'arme la plus la représentative. Côté positif, ça va être le fusil Lebel. Donc fusil Lebel qui était quand même qui représentait 80% de l'armement français de la Première Guerre mondiale. Ça va être une très bonne arme. Elle va être malheureusement uniquement réservée pour la classe sniper. Mais du coup, ça reste une très bonne arme, des très bonnes statistiques. On va voir aussi un fusil d'assaut pour le médecin. Enfin, c'est pas un fusil d'assaut, c'est une mitrailleuse pour le médecin qui est aussi pas mal. Mais sinon, c'est vrai que voilà, elles pêchent un peu. Elles ont pas forcément beaucoup de puissance. Mm-hmm. En fait, on retrouve pas vraiment.
Mais ça garde un certain réalisme.
Alors, c'est un certain réalisme en sens où voilà, ça reprend les sons, etc. D'ailleurs, les équipes de DICE ont publié aussi une sorte de carnet de développement mm-hmm. consacré au making of de l'enregistrement des sons. C'est vrai que c'est réaliste à ce niveau-là, mais ça manque quand même de pêche. Enfin, dans la réalité, on peut dire que certaines armes sont supérieures à d'autres en termes de puissance, en deux mêmes calibres. Donc là, c'est un peu la même chose. On a deux fois le même calibre et on a une arme qui est inférieure à l'autre. Enfin, c'est assez bizarre, surtout comme choix stratégique finalement, parce que quand on achète un DLC et qu'on paye ça à 15€, on s'attend quand même à ce qu'on ait pas forcément un avantage sur les autres, mais au moins une vraie utilité en jeu, en termes de mécanique de jeu. Et du coup, on se dit bah pourquoi j'ai finalement des armes sur les 6, il y en a que deux qui sont vraiment utiles, et les autres, on va vite les oublier. On va finalement les jouer parce que c'est voilà, le plaisir de la nouveauté, mais ça va pas forcément changer la donne sur le champ de bataille. Par contre, on va parler aussi des véhicules. Pour le coup, ils ont vraiment une importance. On a un nouveau Behemoth, qui c'est le char 2C,
ouais.
Qui est un char gigantesque. Alors, pour refaire un petit point historique, c'est un char qui est jamais vraiment sorti en fait pendant la Première Guerre mondiale. Il a été développé trop tard, en 1917. Il est sorti qu'en 1921 et qui a servi en fait pour la Seconde Guerre mondiale. Mais il est jamais sorti pour la première, et donc ils l'ont mis dans le jeu, ce qui est plutôt pas mal pour faire les Behemoths. Que le Behemoth, pour rappel, ce sont en fait les super véhicules qui peuvent changer le cours d'une partie. Donc en général,
c'est celui qu'on voit à l'écran là, voilà, pour la première.
Non, c'est pas celui-ci. Ah, ça, c'est un des autres véhicules. Alors on a effectivement celui-ci que les premiums peuvent actuellement voir, qui est un peu un transport de troupes avec de grosses mitrailleuses sur les côtés.
C'est le truc devant lequel on a été pris en photo quand on était à la Gamescom.
Oui, voilà,
ouais,
exactement.
Je me rappelle.
C'est exactement ce char-là. Après, donc le BMS, lui, pour le coup, c'est vraiment un char qui est extrêmement, extrêmement puissant, qui a beaucoup, beaucoup de blindage, et du coup, qui peut vraiment changer le cours d'une partie positivement pour l'équipe qui le possède, et évidemment, c'est la France qui le possède. J'ai notamment donc au cours du test, il y avait une partie où c'était vraiment ça se jouait à quelques cheveux, quelques poils de cul pour être.
Oh mais tu peux y aller, hein, il n'y avait aucune vulgarité là.
Et du coup on a réussi à reprendre la main et gagner la partie grâce à ce char. Et voilà, ça c'est un bon ajout. Sinon, niveau des maps, niveau des armes, niveau des véhicules, ça s'arrêtera là. Ne vous attendez surtout pas à avoir la moindre trace de campagne solo, ça sera pas le cas. Donc voilà, 15€ et ça reste un très bon DLC. Je suis le premier à regretter que c'est pas été un contenu qui soit directement dans le jeu de base, surtout que ce sont des batailles qui sont vraiment essentielles, très représentatives de la Première Guerre mondiale. Alors, Verdun, c'est difficile de passer à côté. En tout cas, voilà, c'est le premier DLC. Il y en a 4 qui sont prévus. Le prochain, ça sera sur l'armée russe. Le troisième, ça sera... donc là, c'est aucun spoil, hein, vous inquiétez pas, c'est déjà acté. Le troisième sera sur les batailles navales. Et le quatrième se nommera Apocalypse et sera sur les plus grandes batailles de la Première Guerre mondiale. Mais en sachant qu'ils ont déjà fait Verdun, qui est une des principales dans le premier DLC, on se demande pour l'instant sur quoi ça va porter, mais ça m'a l'air...
Chris Redfield, peut-être, on ne sait pas.
En mode zombie.
John Cena qui débarque.
Ouais, John Cena qui débarque aussi, c'est possible.
Donc voilà... moi je conseille honnêtement ce DLC après
mais peut-être pas au prix unitaire, peut-être plutôt dans le season pass.
Ça vaut plus le coup honnêtement dans le season pass avec payer 15€ uniquement pour ça.
Faut vraiment être accro,
mais ça reste un très bon jeu et une très bonne durée de vie, notamment grâce aux maps et surtout ce mode de jeu qui est vraiment formidable.
Très bien. Johnny, c'est ton truc toi, Battlefield, ou pas? Je me rappelle plus si on en avait parlé.
La dernière fois que j'ai joué à un FPS comme ça, mon dernier c'est Modern Warfare 2.
Ouais. Ah oui, ça date. Oui.
Ça date un peu.
Oui, d'accord, ok.
Ouais, ouais. Bon. J'étais assez fan des premiers Call of, etc. Ouais. Et puis je sais pas, il y a une espèce de hype et puis tu sais, un jeu qui sort tous les ans, t'as pas le temps de tout faire. Ouais. Donc en gros, ce genre de jeu, bah je l'ai fait en dernier et du coup bah je l'ai fait pas.
Ouais, mais il faut choisir. T'as raison. Moi, je suis d'accord avec toi. Il y a un moment entre Dead or Alive Extreme et Call of Duty et Battlefield, il faut choisir, Johnny. Je suis tout à fait d'accord avec toi.
Mais encore, ils sont ralentis parce qu'à la base, DICE, ils voulaient faire un Battlefield par an, il me semble. Puis maintenant, ils ont réduit la dose et finalement, ça va tenir.
Bah, là, ça sera Battlefront à la fin de l'année.
Voilà, ça sera Battlefront 2 à la fin de l'année. Et comme on l'a vu pour Battlefield 4, il a une durée de vie finalement assez honorable. Et puis en fait, les DLC s'étalent toute l'année en fait. Et je continue à suivre le jeu l'année suivante.
J'ai dit une bêtise, j'ai deuxième Battlefront comme apport.
Ah, voilà, je me disais bien qu'il y avait un PS, on avait parlé.
Le dernier.
Celui de DICE. Battlefront, ouais. Par contre, j'ai fait uniquement du vaisseau spatial. C'est grave, docteur.
Un peu, ouais.
Non, je prenais des vaisseaux et voilà.
D'accord. Bon.
C'était mon kiff.
Eh bien, merci Camille pour cette... on rappelle le test, disponible sur Gameblog. La note de 7 sur 10. N'hésitez pas à le lire si vous voulez avoir plus de détails encore concernant The Shallow Pass, le premier DLC de Battlefield 1, donc, qui arrive le 28 mars pour tout le monde, sur Xbox One, PC et PS4, mais qui est déjà disponible pour les détenteurs du Season Pass, toujours sur les mêmes supports. On va passer à Too Dark. Là, je vais me retrouver à faire un monologue, à moins que vous ayez des questions. Je ne sais pas si c'est un jeu qui vous intéresse vraiment.
Et si vous avez suivi. En fait, moi, je sais pas de ce que j'en ai vu pour l'instant, j'ai pas vraiment suivi. Moi, ça me fait penser à pas mal de petits jeux indés qu'on a pu voir, du genre comment il s'appelle celui de... Oh mince, j'ai perdu le nom.
Vas-y, dis-moi. Balance
C'est une copie de Silent Hill 4 en mode 2D.
Copie de Silent Hill 4 en mode 2D. Lone Survivor.
Ça me fait penser un petit peu à ça. Un autre qui est sorti un peu plus récemment qui s'appelle Claire. Ou là, c'est une copie de Silent Hill 3, une héroïne blonde dans un jeu 2D d'horreur, pareil.
Moi,
ça m'a fait penser un petit peu à ça, du coup, je m'y suis intéressé un petit peu de loin à ce titre.
Bon, de toute façon, on est obligé de s'y intéresser quand on aime le jeu vidéo, puisque c'est Frédéric Reynal qui l'a conçu, en grande partie, le studio de Gloomywood, donc c'est lui qui l'a fondé avec d'autres personnes, c'est lui qui s'est retrouvé à la tête du projet, c'est même lui le héros presque. Si vous regardez le héros du jeu qui s'appelle Smith, vous verrez qu'il a à peu près la même coupe que le créateur du jeu, donc c'est cette incroyable touffe de cheveux de Frédéric Reynal. Il y a des choses dans le jeu vidéo chez les concepteurs qu'il faut savoir. Il y a Warren Spector qui a une barbe incroyablement bien taillée et Frédéric Reynal qui a la touffe la plus surréaliste du monde, des cheveux sur lesquels je pense qu'on peut s'en servir comme peau à crayon. Il y a aucune chance que ça tombe. Bref, donc Too Dark, pour revenir au jeu. C'est un survival horror en vue aérienne avec des partis pris et des idées assez spéciales. Pourquoi l'avoir fait en vue aérienne? Alors Frédéric Reynal l'avait expliqué quand on avait pu s'entretenir avec lui. C'était pour un côté, on va dire, intuitif. C'est-à-dire que quand vous êtes en vue FPS, pour voir la globalité d'une pièce, vous êtes obligé de faire le tour comme ça sur vous-même pour être sûr de vraiment avoir bien regardé ce qui se passait. Et lui, son idée, c'était que dans la vraie vie, on a un champ de vision qui est un peu plus étendu, donc du coup, on sait à peu près ce qui se passe autour de nous. Et du coup, il s'est dit, je vais faire ça en vue aérienne de manière à ce qu'on soit pas trop pris au dépourvu. Et il joue aussi beaucoup sur ce champ de vision qui va quand même être restreint parce que c'est un jeu qui se passe essentiellement dans la nuit, dans le noir, même si on peut s'amuser avec diverses sources de lumière. Et il va jouer avec le son aussi pour éviter justement d'alarmer des autres personnages qui sont autour. Je vais y revenir juste après. Le scénario, donc, c'est Smith, un flic qui un jour, malheureusement, est témoin, sans possibilité d'agir, du meurtre de sa femme et de l'enlèvement de ses deux enfants. Et qui, du coup, après devient un flic complètement dépressif, alcoolique. Et quelques années plus tard, il y a une vague de rapt dans la ville de Gloomywood, sur laquelle il décide d'enquêter lui-même, même s'il a raccroché sa plaque. Il décide d'aller voir ce qui se passe, pourquoi des enfants sont capturés par des serial killers, par des psychopathes, et s'il peut essayer de les sauver. Et c'est sur 6 niveaux donc qu'on va se retrouver à essayer d'aller aider des enfants qu'on va entendre pleurer, qu'on va essayer d'aider, qui vont être enfermés dans des cages. C'est assez glauque, vraiment, c'est même turbo glauque, comme dirait Julo. Voyez, alors je vous montre pour les premiums. Poufy à la réal. Est-ce que tu peux revenir un petit peu en arrière pour qu'on revoie, voilà, Frédéric Reynal, qui est papa de The Dark hein, quand même, hein. Le papa de Toy Commander aussi sur Dreamcast, le papa de Little Big Adventure, c'est, ce mec est une légende, et c'est un mec qui en a vraiment dans la tête, d'ailleurs ça se voit avec
sur
ses
la
cheveux
tête.
Et sur la tête, et avec Too Dark, il l'a encore prouvé. Donc Smith, on va le guider à travers des décors qui sont vraiment très très sombres. On va rencontrer donc des personnages qui seront un peu plus hostiles. Certains appelleront des gardes, d'autres viendront essayer de vous zigouiller, hein, tout bêtement. Et on avance avec la peur au ventre pendant tout le jeu parce qu'il y a des pièges de tous les côtés. Il y a toujours quelque chose pour vous empêcher d'avancer sereinement. Il faut faire vraiment très attention, ne jamais hésiter à marcher à tâtons, donc tout doucement pour éviter que, vous voyez, il y a une espèce de rayon de bruit qui se crée autour de vous. Il faut essayer d'éviter ça. Ne serait-ce que dans le premier niveau qu'on avait pu vous montrer avec Traz en live, on se retrouve dans un cirque. Et donc déjà pour arriver au premier psychopathe avec les enfants qu'il a déguisé en fait en animaux de cirque, c'est déjà très compliqué. Il faut faire très attention, essayer de trouver les bons objets. Et une fois qu'on y est, il y a des lions qui peuvent s'en mêler. Et donc les lions, faut réussir à pas se faire bouffer par eux, et donc essayer de pas faire du bruit. Mais on peut aussi servir de choses comme des bonbons par exemple pour faire diversion. Il y a pas mal de petits objets comme ça qu'on peut ramasser pour un inventaire qui est au début pas très accessible, mais après on commence à prendre un peu le coup de main. Donc c'est au niveau maniabilité par moment, oui, et surtout interface, on peut se poser des questions. Il y a une espèce de parti pris un peu étrange, un peu point and click par moment, si on ne passe pas forcément par la roue, par une espèce de menu radial pour sélectionner ces objets, on peut se retrouver avec des difficultés. Mais bon, les difficultés de toute manière vous en aurez dans ce jeu, hein. C'est pas un jeu qui est fait pour être sympathique avec vous. Quand vous allez vous retrouver avec plusieurs enfants derrière vous qui peuvent chouiner ou qui peuvent faire comme ça en vous regardant, et que juste à côté justement il y a un psychopathe, vous allez vous dire merde, qu'est-ce que je vais faire. Faudra jamais hésiter à sauvegarder le plus souvent possible. Sauvegarder d'ailleurs, la méthode est très classe, hein, c'est vous allumez une clope et puis voilà. Donc c'est un jeu très très difficile.
Et du coup, est-ce qu'on ressent quand même une peur comme dans
tout le temps.
Un survival qui serait plus vu FPS. Est-ce que la vue enlève pas la peur finalement?
Ah non, carrément pas, parce que t'es plongé dans le noir quasiment tout le temps. T'as comme dans tout bon survival un problème de ressources. C'est-à-dire que quand t'as plus d'essence dans ton briquet, non, le briquet ça va. Quand t'as plus d'essence par exemple dans ta lampe ou de pile dans ta torche, t'es dans la merde,
ouais.
Parce que tu vois plus rien. Et si t'allumes la lumière quelque part, ça peut se voir. Et si tu fais du bruit ou etc, ça peut se voir. Quand tu te sers de ton flingue aussi, ça peut se voir. Et les combats de ce côté-là d'ailleurs sont un petit problème. Ils ont même un gros problème, c'est qu'ils sont pas très intuitifs et que la visée est un peu moyenne. Et même quand on arrive, parfois il y a l'IA, elle fait un peu des trucs un peu bizarres. Que ce soit quand les gamins vous suivent ou quand les ennemis vous tournent autour ou que vous essayez de les aborder de manière la plus furtive possible. Des fois ça merde un petit peu de ce côté-là, ce qui est pas trop gênant, hein. Vraiment c'est ça va, c'est ça reste vraiment très agréable. Donc il y a une ambiance qui est incroyablement réussie. Je ne peux que louer les musiques du jeu qui sont vraiment extraordinaires. L'ambiance sonore aussi, c'est vraiment très bien pensé, même si il y a un autre souci en fait dont j'ai oublié de parler, c'est que il y a une espèce d'automatisation pour récolter les objets que vous allez pouvoir ramasser. En fait, Smith passe à côté, il y a un point d'exclamation sur sa tête pour dire « Ah tiens, il y a quelque chose ici ». Des fois ça s'enclenche pas forcément comme il faut et il faut être bien en face pour que automatiquement vous attrapiez l'objet. Et parfois, surtout quand ça concerne des indices que vous êtes obligé de récolter pour finir un niveau, et bien parfois il les récolte pas. Et pourtant vous pensez avoir vraiment balayé tout le niveau et au final vous l'avez pas, vous êtes obligé de retourner et parfois au dépend de votre propre vie que vous avez déjà eu bien du mal à maintenir pendant tout le niveau. Donc voilà, il y a des petits soucis on va dire, mais de manière générale c'est un bon survival. Je pencherais plus pour dire que c'est un jeu d'infiltration parce que c'est vraiment porté sur l'infiltration et que le combat n'est pas forcément le truc le plus simple à aborder. Et quoi qu'il en soit, vous en aurez pour votre argent, c'est certain. En tout cas, moi j'ai passé des heures et des heures à stresser sur ce jeu. Traz peut en témoigner, il était devant moi. Il y a vraiment des moments où j'étais en nage. Donc un jeu que je conseille. Pareil, il a eu 7. C'est un bon jeu. C'est une bonne manière pour Frédéric Reynal de revenir aux affaires, je pense, et j'espère qu'il va penser à faire un, si ce n'est un 2, au moins un jeu qui sera dans la même veine, avec le même type de réalisation en voxel, qui est assez surprenant hein, quand vous le regardez, ça fait très old school, mais en même temps ça donne un petit cachet sympa, je trouve.
Beaucoup de possibilités, en plus. Le voxel,
et
c'est
oui, énormément de possibilités.
Ça pour le craft, ou ce que tu veux, c'est parfait. Quoi.
Et bah écoute, je pense que à mon avis, il y songera si, si le jeu fonctionne assez bien et que suite il y a, en tout cas. Ça valait le coup d'attendre depuis, depuis son annonce. Si vous voulez un jeu qui vous fait stresser, qui vous fait flipper, avec Too Dark, vous aurez ce que vous voulez. Sorti sur PC, PS4, Xbox One en téléchargement depuis le 10 mars. Et depuis ce vendredi 17 mars, là tout de suite, il est disponible sur console en version boîte.
Avec un, ou pas, un petit artbook et un steelbook.
C'est vrai, c'est sur console ou sur PC?
Je l'ai vu sur PS4, moi, comme ça. Hein.
Attends.
À 10 balles de plus, 40 balles. T'as un steelbook et je crois que c'est un genre de mini-artbook de la taille A5, taille du boîtier.
Ouais, c'est ça. Non, il est en physique. Non, c'est tout, en fait. C'est sur les trois plateformes en physique aujourd'hui. Voilà, je confondais avec un autre jeu qui est passé gold aujourd'hui. C'est Shyness qui, lui, ne sortira pas en boîte sur PS4 et Xbox One. Voilà, c'était juste ça. Voilà, c'était mes impressions de Too Dark. J'espère que ça vous incite à vous plonger dedans parce que franchement, il le mérite.
Ouais, il est sur ma
sur ta wishlist.
Hein, ouais, il est sur ma liste. Hein,
tu vois. J'adore les jeux d'horreur, donc.
Ah bah là, ça va te. Ça risque de beaucoup beaucoup te plaire. Par contre, t'attends pas à quelque chose de facile. Ouais. Vraiment, c'est ouais, vraiment très dur. Comme à chaque fois avec Frédéric Reynal, d'ailleurs, je lui avais fait la remarque pour Toy Commander. On va passer maintenant au troisième thème de la semaine. Il s'agit de Mass Effect Andromeda, dont tu vas enfin pouvoir parler tranquillement, Johnny.
Eh non.
Bah si.
Et non, l'embargo.
Non mais je veux dire parler tranquillement, sans que quelqu'un ne t'interrompe. Tu vois, c'est quand même fantastique, non?
Oui.
Hey, tu sais quoi? On peut même s'en aller et te laisser parler.
Ah bon, c'est vrai.
Non, je plaisante. On va s'en aller, j'ai envie de t'écouter. Me dire ce que tu penses de Mass Effect Andromeda jusqu'ici, sachant que le test arrive bientôt.
Ouais.
On ne peut pas encore donner la date exactement.
Non.
Le jeu sort le 23 mars chez nous sur PC, PS4, Xbox One, mais le 21 aux États-Unis. Donc on peut supposer que le test arrivera pas longtemps avant ça. Et là, jusqu'ici, donc, t'as pu y jouer quelques heures, comme d'ailleurs beaucoup de gens d'ailleurs qui ont
sur le
qui ont le comment dire le l'Origin Access ou le Xbox EA Access qui ont déjà pu jouer. Certains ont déjà dû faire des 10 heures d'ailleurs hein, qui sont alloués au jeu. Moi, ce que je veux, c'est ton avis jusqu'ici de ce que tu penses vraiment depuis jusqu'où t'as le droit d'en parler, évidemment.
Ouais, bien sûr. Alors, il va falloir
ce que tu penses
un peu
de
scène de sexe.
Est-ce que t'as bangé?
Ouais,
mais t'as pas le droit d'en parler. C'est après.
Ouais, c'est après.
Ah là 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 là. Et c'est hot ou pas? Attends, tu peux nous
dire. J'ai rien vu. Il y a une porte qui se ferme et t'entends des bruits.
Ah putain, il nous avait. Eh non, mais attendez là, parce que chez BioWare, il nous avait dit sur Twitter que c'était ce genre.
J'ai pas vu j'ai rien vu. Pas un bout de peau, rien du tout.
Même pas un petit.
Non,
rien.
Que dalle.
Oh, mince, bon. Bon, tu me diras après hors podcast qui c'est que t'as bangé. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'exploration, la réal, le scénar, est-ce que le côté épique commence un petit peu à se ressentir?
Alors,
à mesure qu'on
avance. Justement, au niveau du scénar, c'était ma première crainte après avoir fait la preview, c'est-à-dire bon bah voilà, disparition de l'univers des moissonneurs, etc. Mais en fait, on se rend très vite compte que la nouvelle galaxie d'Andromède dans laquelle on arrive, donc déjà on fait une première rencontre assez assez compliquée avec donc des extraterrestres qui s'appellent les Kert. Voilà. Et bon bah bien sûr, forcément, le premier contact se passe mal, ça se met sur la gueule, etc. Et en fait, on va assez vite se rendre compte en explorant donc notre première planète Eos, donc qui est la planète que les joueurs peuvent
celle qui s'appelle l'Habitat 7 quoi, en fait.
Non,
au départ.
L'Habitat 7 c'est la toute première, c'est le prologue, et ensuite tu vas sur Eos qui est une des autres planètes visées par l'initiative Andromède.
C'est pas ça, je sais plus.
Je pourrais pas te dire le chiffre exact, franchement. J'en ai pour l'instant je les ai pas toutes vues. Et voilà, je sais que est-ce que j'ai le droit de le dire, dans le menu il y en a des slots qui apparaissent, enfin bon bref, voilà, il y en a un certain nombre. Donc suffisant. Voilà.
Surtout quand on connaît leur taille.
Ouais.
Visiblement.
Alors,
au niveau
ça,
de la taille
ça,
des planètes.
De
sont...
Donc bah, justement, donc on commence sur Eos, donc et sur Eos on va assez vite, on croise d'autres Kert, et on va assez vite se rendre compte en fait que bah il y a une espèce de vieille technologie mystérieuse, un peu comme dans la Voie lactée les humains avaient découvert des ruines protéines sur Mars. Bah là, sur toutes les planètes de la galaxie d'Andromède, on va pouvoir retrouver ce qui s'appelle des ruines reliquates. Voilà. Donc des mystérieuses technologies qui ont l'air est-ce que j'ai le droit de dire non, pas vraiment,
ouais.
Voilà, qui peuvent faire des choses assez formidables. Donc c'est vieux, mais on sait pas d'où ça vient, on sait pas ce que c'est, etc. Mais ça fait des choses.
Ça soulève quelques questions.
Ça soulève énormément de questions auxquelles bon, on a des réponses au fur et à mesure de l'avancée dans le jeu. Bien sûr, les réponses qu'on t'apporte vont soulever d'autres questions, etc. Non, donc la crainte que j'avais sur le... J'ai pas encore vu la fin, mais la crainte que j'avais sur le scénario...
Parce que si tu nous en parlais là, on serait pas besoin.
La crainte que j'avais sur le scénario, elle est un peu levée, parce que bah, pour l'instant, j'en suis à 20 heures de jeu. Et sur ces 20 heures de jeu, tout ce que j'ai vu, ça me passionne. J'ai vraiment envie d'aller voir la suite et de savoir ce qui se passe dans cette galaxie. Voilà.
D'accord, donc le lore... est toujours aussi intéressant.
Ouais.
Le background du jeu. Moi, ce que j'avais constaté quand on avait fait le live ensemble, que je vous invite d'ailleurs à aller voir, hein, parce que c'est un bon moyen de vous découvrir un peu le début du jeu sans trop se spoiler en plus, parce qu'on a zappé les trucs qu'il fallait. C'était que je trouvais que les combats avaient gagné en pêche.
Ouais.
Mais genre monstrueusement.
Oui, bah donc
ça a l'air plus souple aussi.
Ah oui, complètement, oui. Mais c'est déjà le cas du premier Mass Effect au troisième Mass Effect.
Les phases d'action étaient bien sûr plus proches d'un TPS que d'un RPG. Ouais, voilà.
Complètement, ouais.
Là, c'est carrément le cas, c'est-à-dire qu'en plus on supprime la pause. Par contre, on n'a plus la pause pour la roue des pouvoirs, etc. Si on veut faire des combos biotiques avec des pouvoirs tech, etc. Bah, il faudra que vos camarades soient équipés du dit pouvoir et que vous lanciez le vôtre au bon moment. Voilà, ça se fait plus comme avant, on peut plus les prévoir, mettre en pause le jeu, etc. Donc vous avez plus cette espèce de facilité qu'on vous offrait. Non, là, il y a plus de pause, les pouvoirs, ça se fait en temps réel, etc. Et par contre, on gagne dans la perte de cette roue des pouvoirs, etc. On gagne énormément en nervosité. C'est-à-dire que votre personnage, il est équipé d'un dash, c'est très 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 pratique pour vous sortir de situations très compliquées, mais aussi d'un saut qui va permettre de monter un peu partout sur le décor, de prendre des ennemis de haut, etc.
Plus de la verticalité.
Petite feature assez sympa, c'est-à-dire que quand on fait un saut en l'air, quand on active la visée quand on est en l'air, notre propulseur dorsal se met en route, et du coup on peut rester un petit moment en l'air et canarder ses ennemis qui
et
sont
se faire
planqués.
Canarder parce qu'on a une belle cible.
On a une très très belle cible. Il faut pas le faire trop longtemps. Voilà. Donc, et par contre, le jeu gagne un autre tout petit aspect tactique, du coup, qui ce coup-ci va se faire en off, en préparation de combat, etc. C'est-à-dire que la classe qu'on choisit au départ n'est plus vraiment définitive. C'est-à-dire qu'on se rend assez vite compte dans le menu qu'on a accès à toutes les classes, en fait.
En fait, on peut mixer les différents...
Pas vraiment. En fait, donc, t'as des pouvoirs biotiques, des pouvoirs tech et des pouvoirs de combattant, de soldat, voilà. Et si tu dépenses par exemple tant de points chez le pouvoir dans les compétences du soldat et tant de points dans les compétences du technicien, bah tu vas pouvoir avoir accès à la classe du franc-tireur par exemple. Voilà.
D'accord. Donc en fait c'est suivant le profil. Ton profil de jeu, en fait, tu vas avoir des profils de classe qui vont s'ouvrir.
Exactement, exactement. Donc ça rajoute une espèce de petit aspect tactique, préparation au préalable.
Et de ce côté-là, justement, c'est suffisamment profond, que ce soit les arbres de compétences, les différents skills,
niveau RPG ou
les différents, les différents objets que tu peux ramasser aussi, les équipements.
Le niveau équipement, niveau RPG, on est sur un truc qui est assez complet, qui est pas aussi riche peut-être que le premier où on lootait à gogo. Là, non, on passe pas tant de temps que ça dans les menus à trier ses armes, etc. Mais on a quand même... On revient sur du vrai RPG en opposition à ce qui s'était fait sur le 3, par exemple.
D'accord.
Où ton stuff avait très peu d'importance au final. Voilà.
Très bien.
Là,
alors,
il en regagne.
On va parler un tout petit peu personnage, peut-être, parce que ça peut être une crainte aussi. Savoir si les personnages secondaires sont bien traités et si la plupart des quêtes sont bien traitées aussi.
Alors, un peu à la manière du 2, tu vas avoir donc 6 acolytes. Voilà. Ça, j'ai le droit d'en parler puisqu'ils ont déjà tous été montrés. Donc, tu vas avoir du classique, hein, du Krogan, de la Sari, 2 humains avec toi, une Turienne et un perso d'une des nouvelles races de la galaxie d'Andromède.
D'accord.
voilà. C'est assez bien écrit, ils ont tous leur petite histoire, tu peux bah, aller les dragouiller quand tu es sur le, pas le, j'allais dire le Normandie, non, le Tempête
ouais.
tu vas les dragouiller ou parler avec eux, faire copain avec eux pendant les, entre les missions, et puis ça va déverrouiller un peu comme dans le 2 bah, des missions de loyauté, voilà, où tu vas pouvoir aller plus loin dans leur histoire
dans
personnelle
relation, ouais, puis...
et dans la relation entre, j'allais dire Shepard, ouais. entre Ryder et ton acolyte.
Alors, celle-là, voilà. on la fera souvent avec Shepard. Hein.
Et du coup, t'as gardé ton skin d'origine ou t'as changé
Ah non, moi j'ai changé. Ouais. D'ailleurs, tiens, bah, ça c'est une des petites déceptions que j'ai eues en créant mon personnage. Mm. C'est-à-dire que moi, j'ai passé vraiment des heures à créer mon perso dans Mass Effect.
Mais ça, c'est bizarre parce que, après, moi, justement, quand tu t'en parlais, mm-hmm. Sur internet, j'ai vu énormément de visages. Mais des mecs qui étaient dégueulasses. En fait, tu vois gifs.
En fait,
tu vois beaucoup de gifs, ouais, où tu sais, ouais. c'est le début où elle se réveille comme ça de sa cryogénisation. Ouais. Où il se réveille de sa cryogénisation. Et en fait, il y a plein de gens qui ont fait des gifs avec des monstres. Mais vraiment, ils ont des gueules affreuses et tu les vois faire comme ça.
Oui,
ça
tu peux créer un monstre, ouais. en fait. C'est-à-dire, si tu as envie, par exemple. En fait, dans les anciens éditeurs de perso, ce que tu pouvais faire, par exemple, tu allais choisir un visage de base. Et ensuite, tu choisissais le type d'yeux. Est-ce que c'était des yeux en amande? Est-ce que c'était plutôt des yeux, des gros yeux? Enfin, voilà. La bouche, pareil. La forme de la bouche, la forme du nez. Est-ce que c'est un nez crochu? Est-ce que c'est un nez pointu? Est-ce qu'il a une petite bosse dessus,
ouais,
etc.
C'est moins précis quand même.
Ah, c'est beaucoup moins précis. C'est-à-dire que là, en gros, tu choisis un visage, t'en as 10 différents, que ce soit le mec ou la nana, tu choisis la couleur de peau, et si tu peux créer un monstre, parce que la seule chose que tu peux vraiment changer dans le visage, c'est pas la forme des yeux, la forme du nez, la forme de la bouche, c'est l'inclinaison, est-ce qu'elle est à la bouche en avant, la bouche en arrière, la montée, la descente, c'est tout, en fait. Et donc, du coup, en vrai, bah, créer mon perso, ça m'a pris 10 minutes, quoi.
Ah, alors que d'habitude c'est le site d'un grand RPG en général, c'est qu'on prend des heures.
Ouais, ouais. Ouais.
Bon bah alors là du coup on le sent mal.
Non ouais bah non, bon, c'est qu'un détail, mais ça m'a assez déçu ça, franchement.
Il y a quand même des vidéos qu'on voit dans les trailers, ce qui me fait peur c'est le manque de charisme des personnages en fait. J'ai l'impression que les personnages ne sont pas du tout charismatiques.
Bah la c'est-à-dire les acolytes ou les
que ce soit les compagnons ou que ce soit les PNJ qu'on rencontre au gré du vent, j'ai pas.
Moi j'ai pas trouvé ça pour l'instant spécialement si dégueulasse que ça, voilà. Juste si on voit quelques petites images là qui tournent sur le net en ce moment.
La polémique des animations.
Alors j'allais finir, est-ce que de ton côté t'as noté, comme on peut le voir partout sur le net avec le fameux effet loop, des problèmes d'animation? Alors on voit que la jeune femme qui joue le rider de base
féminin est dégueulasse.
A été genre. Mais saccagée, la pauvre, elle ne ressemble pas ça du tout dans la vraie vie. Vous pouvez voir si vous êtes premium. En vrai, je crois qu'on a vu une photo il n'y a pas très longtemps. La jeune femme qui a été modélisée est ravissante. Et son visage, là, et ses animations faciales sont
horrible.
Juste dégueulasses.
Ils lui ont fait une bouche énorme, je ne sais pas pourquoi.
Là,
du coup,
ils ont craqué. Ouais. Mais là, on peut voir par exemple une vidéo qui a été diffusée sur internet qui recense un petit peu tous les problèmes d'animation, les raideurs, les visages qui ne sont pas synchronisés ou qui ont vraiment des formes bizarres, quoi, ou un manque d'expression assez flagrant. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a choqué
partie ? Non, parce que moi, j'oublie pas qu'on est sur un jeu qui est un RPG.
Ouais.
D'accord, ok.
Ouais, mais regarde par exemple, quand tu fais le comparo avec bébé Yennefer, je l'appelle bébé parce que c'est un peu voilà, c'est un peu ma préférée. Mais tu vois, tu fais le comparo par rapport à The Witcher 3 qui date de 2015 et que tu vois que effectivement ça manque un petit peu d'expression quand même du côté de chez Mass Effect. Bon, moi personnellement,
c'est moins beau. Ouais, c'est
voilà,
moins beau
personnellement,
que The Witcher.
Ça va pas me choquer.
Non,
mais c'est vrai qu'il y a des joueurs qui vont être. D'ailleurs, ça commence. On l'a vu. Des joueurs qui commencent déjà à faire. Oui, bah ça y est, c'est de la merde. C'est pas comme The Witcher, etc.
Ouais, non, mais faut arrêter. Je veux dire, t'es sur un jeu, c'est un RPG, d'accord. Tu vas pas allouer toutes tes ressources sur un moteur graphique. C'est pas Gears of War. C'est pas un truc qui va se boucler
en
8 heures, quoi. Tu vois.
Même qui est utilisé sur Battlefield. Ils auraient pu. Ils ont sûrement réutilisé quelques assets, enfin au moins quelques portions du moteur.
Bah, Dragon Age aussi, hein, t'es là-dessus, Dragon Age Inquisition.
On peut se demander pourquoi ils ont pas réutilisé certaines animations de Battlefield, à la limite, qui sont justement exceptionnelles et très réalistes, quoi.
Ouais, mais ça va savoir comment ils s'en débrouillent, mais c'est vrai qu'on a pu voir des trucs un peu drôles, mais. Voilà, est-ce que ça veut dire que c'est général?
Non,
est-ce que ça veut dire que
c'est le coup du
franchement, je sais pas comment te dire, enfin t'es sur un genre de jeu voilà où c'est tellement immense, c'est tellement dantesque que tu peux pas être parfait 100% du temps, quoi. Et ça me fait doucement rigoler entre guillemets cette polémique, parce que les gens qui critiquent ça, mais bah est-ce que c'est le genre de défaut qu'on retrouvait dans les trois premiers Mass Effect, tout simplement.
Ouais.
Voilà, et est-ce que les jeux étaient mauvais pour autant? Non. Et je vais prendre un autre exemple. Un truc qui m'a choqué au début, par exemple, la première fois que j'ai lancé les Fallout nouvelle génération, que ce soit le 3 ou New Vegas, quand tu passes en vue TPS, tu fais mais c'est dégueulasse, qu'est-ce que c'est que ces animations? Mais c'est immonde. Et en fait, est-ce que avoir des animations immondes et des graphismes pas forcément au top empêche un jeu d'être fantastique? Non, je ne pense pas.
Je suis à peu près du même avis que toi.
Ouais, voilà. Donc pour moi, c'est pas très très important. Bien sûr, j'en parlerai dans le test, mais je pense pas que ça influera sur la note. Voilà. Très clairement.
Moi, je suis d'accord avec toi. Fallout 4 avait des animations parfois débiles.
Même pas le 4, tu repars, tu prends même le 3 ou New Vegas. Hein. Franchement, là, moi, je me rappelle, j'ai un souvenir. J'ai acheté le jeu, je sors de l'abri, je me mets en vue TPS et je fais, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et en fait, au final, j'ai passé 200 heures dessus, je l'ai fait sur toutes les consoles, je l'ai retourné en long, en large, en travers. Enfin, voilà.
Ouais, bah, je te fais confiance en tout cas. Donc pour l'instant, de ces premières heures, tu ne retiens quasiment que du positif.
Oui,
donc.
Alors tiens, un truc dont on n'a pas parlé, c'est l'exploration. Oui. Donc j'ai pu me rendre un peu plus compte de ce que c'était. Pareil, c'était un truc dans ma preview, j'avais pas été super emballé. Parce que justement, on m'avait emmené sur... Non, pas sur Eos, on m'avait emmené sur une autre planète que j'ai revue un petit peu plus tard dans le jeu, là. Que je viens de boucler d'ailleurs. Et en fait, donc Eos...
Mais genre bouclé, tu l'as vu en entier? T'as tout fait?
Non, j'ai pas tout fait.
Parce que c'est trop grand.
C'est trop grand. Ouais. C'est un truc de ouf.
La planète là, qui ressemble un peu à Tatooine dans Star Wars, elle est juste magnifique. Moi, j'adore cet esprit de dune de sable à perpète.
C'est chouette aussi. Ouais. Moi, je suis. Enfin, de toute façon, je suis client là déjà. Et là, balader dans le domaine.
Et donc, tu vois ce qu'on a vu d'Eos là dans le live. Donc, c'est ce que les joueurs EA Access ont accès actuellement. Voilà. Ouais. En fait, en vrai, c'est peut-être un quart de la planète.
Parfait.
Voilà. Et donc, des planètes, t'en as plusieurs comme ça.
Bah, il nous avait dit que le jeu serait encore plus grand qu'un Dragon Age Inquisition.
Exactement.
Sachant que Dragon Age Inquisition, chaque map est gigantesque. Que j'y ai passé pareil des heures et des heures sur ce jeu. Je m'inquiète pas trop. Honnêtement, je m'inquiète pas trop pour Mass Effect
et
de ce côté-là.
Donc, tiens, bah, attends, je vais aller encore un peu plus loin dans l'analyse. En fait, et pour répondre aussi un petit peu à cette polémique naissante, aussi pareil au niveau de l'exploration, c'est-à-dire j'avais eu une crainte dans la preview qui était que j'avais trouvé l'exploration très linéaire, c'est ce qui m'avait donné à faire. Sur la version finale du jeu, non, je me balade un peu plus, vraiment. Je vais dans les moindres recoins, j'explore et tout, etc. Et justement, donc, tout à l'heure, on a eu un comparo là avec Witcher 3 et Mass Effect. Et je t'ai parlé de Fallout aussi.
Ouais.
Fallout et Mass Effect, on va les mettre dans le même panier, c'est-à-dire c'est des jeux qui techniquement sont pas oufissimes. Voilà. Mais à côté de ça, pour moi, quand tu regardes un Witcher que j'ai adoré, hein, vraiment, mise en scène, l'histoire, tout ça, mais après l'aspect monde ouvert du jeu, moi ça m'a déçu, vraiment. C'est-à-dire t'avais des villages, et entre les villages, de la forêt. Et en fait, tu faisais quoi? Rien. Tu faisais du déplacement automatique. Voilà. Et quand tu devais découvrir une nouvelle zone, bah tu prenais ton cheval et t'avais des bugs. D'accord?
Oui, que là, le cheval était affreux.
Là, en opposition à ça, tu vois ce que en opposition à ça, sur des jeux comme Fallout ou Mass Effect, on a vraiment un univers que je trouve rempli. Voilà, que tu prends plaisir à aller explorer, c'est-à-dire en Fallout, tu désactives ton machin de quête, tu vas explorer le bâtiment devant, bah dans un Mass Effect, c'est un peu pareil, tu vas regarder ta map, tu vas voir qu'il y a un truc derrière la montagne, bah qu'est-ce que tu fais, tu vas y aller quoi. Voilà. Et t'as vraiment un aspect exploration que tu peux pas avoir dans un jeu comme Witcher par exemple. Et peut-être que le fait de ne pas avoir créé un monde, moi le monde de Witcher, je le trouve vide, hein. Franchement, je te le dis.
Bon
ouais, bah je te dis, pour moi c'était de la forêt quoi.
Tu t'exagères quand même un petit peu, je trouve.
Peut-être un peu.
Peut-être un peu. Pour The Witcher,
vite, je vais peut-être un peu loin, tu vois.
Non, mais je vois ce que tu veux dire. Peut-être qu'à l'extérieur des villes, etc.
Ah, y a rien.
En dehors des quelques rencontres, c'était beaucoup de redites avec souvent les mêmes monstres que tu croisais dans les bois, effectivement. T'avais peut-être envie que ce soit plus animé à l'extérieur, comme c'est le cas dans un Red Dead, par exemple, où t'as des petites quêtes qui apparaissent de temps en temps. Tiens, y a quelqu'un qui m'appelle à l'aide, ou etc.
Voilà, et là, donc là, pour l'instant, j'ai vraiment l'impression d'avoir un jeu rempli. Ouais. Voilà.
D'accord. Bon.
Et quand je vois ça, je me dis, mais pourquoi ils font pas un RPG comme ça, mais Star Wars, quoi. Je me dis, mais ça serait tellement bien. Un nouveau Knight of the
Ils ont la licence, KOTOR, hein, normalement.
Mais non, ils ont lancé.
Mais KOTOR,
l'histoire, c'est qu'ils ont lancé Mass Effect parce qu'ils avaient perdu la licence Star Wars, justement.
Oui absolument.
Si on n'avait pas eu Mass Effect, on aurait peut-être eu un KOTOR 3.
EA, ils ont toujours Star Wars.
EA, ils ont Star Wars maintenant.
S'ils veulent faire un KOTOR, un nouveau KOTOR, ils ont les.
Ce sera plus un KOTOR, malheureusement, puisque KOTOR a été retiré, tout ça, blabla. Mais bon.
Mais RPG Star Wars, avec une exploration comme Mass Effect.
Ce serait pas mal, mais ouais, on va savoir si...
Avec un choix Jedi Sith.
Ouais. Si Disney serait d'accord aujourd'hui pour laisser le champ libre à un RPG. Bon, en tout cas, impression rassurante sur Mass Effect Andromeda. Ouais. Le test arrive bientôt, s'il n'est pas déjà sorti, si pour les non-premium.
Ah, peut-être.
Je n'en dis pas plus.
En tout cas, le podcast sort le 23.
Le podcast...
Mercredi, ce sera le 23.
Mercredi
sera le 22.
On sera le 22 mercredi, ouais.
Donc le jeu sortira le lendemain, le jeudi. Donc,
peut-être que le test sera déjà sorti ou pas. Bon, vous nous direz en tout cas dans les commentaires si il est sorti ou pas, et si vous l'avez lu, et si vous avez suivi le podcast. On va finir avec le dernier thème de la semaine. Johnny Wan, avant de te lancer dans Mass Effect Andromeda, t'as été suivre pour nous la Coupe de France de Street Fighter V, donc qui s'est déroulée au Grand Rex il y a quelques jours, et c'était un événement visiblement qui a fait salle comble, qui a été une réussite quoi, tout bêtement, du début à la fin. Faut savoir donc que c'est un tournoi, enfin une compétition. On peut voir d'ailleurs, si vous êtes premium, l'équipe de Courbevoie. Emmenée par Luffy, et dans laquelle on retrouve notre pote Genius, Norman Châtrier. Donc c'est une équipe qui se faisait par. Enfin une compétition qui se faisait par équipe.
Ouais, équipe de 5.
Équipe de 5, avec d'abord des poules de 3 équipes. Ouais. Et ensuite on arrivait directement en 8ème de finale, si je ne m'abuse.
Je crois que c'était direct des quarts. Hein.
Direct les quarts, ouais. Pour match à élimination direct. Avec un principe que j'aime bien.
Gagnant reste.
C'est... Exactement, le gagnant reste, c'est un truc qu'on faisait d'ailleurs dans les tournois de PES. Dans les années, au tout début des années 2000, à savoir que il y a une sur l'équipe de 5, le premier perd, et ben c'est le numéro 2 qui passe. Et si le numéro 2 il gagne contre le. Numéro 1 de l'équipe adverse, il peut enchaîner même les 5 à la suite.
Il peut striker toute la team.
Et ça peut être. C'est un battle mode qui est vraiment. Ça peut créer pas mal de tensions, puis des humiliations aussi.
En plus, c'est des matchs qui se jouent en un seul match gagnant. Normalement, quand tu regardes les compètes de baston, c'est du first to three, first to 5. Voilà. Là, non, c'est un seul round. Du coup, t'as pas le temps de t'habituer à ton adversaire.
C'est comme les pénaux au foot, hein,
Voilà, c'est presque ça. C'est-à-dire que même celui qui est moins fort, il peut gagner dans cette config là. Voilà.
Exactement. Ouais. D'ailleurs, on peut te voir à l'écran là, sous le versus. Qu'est-ce que tu peux nous dire de cette journée alors que tu as passé au Grand Rex à suivre l'événement ?
Bah alors c'était cool parce que déjà on a pu accéder à tout ce qui était coulisses et compagnie. Mm-hmm. Donc on a vu l'éloge du Grand Rex, on a vu tous ces trucs là. Enfin l'envers du décor d'une très grande et célèbre salle parisienne. Ouais. Donc ça c'est assez cool. Donc ça on pourra le voir dans la vidéo. Après on a pu en gros parler avec tout le monde quoi. Voilà, donc les arbitres, les organisateurs, les joueurs, etc. Et c'était vraiment très sympa. Il y a même un groupe à un moment qui faisait de la musique d'ailleurs, ça c'est
des
cool.
Des reprises de musique de street.
En fait c'est marrant parce que du coup pendant leur balance j'ai pu faire deux trois matchs contre le caméraman de l'event.
Ouais.
Voilà, et donc on était sur la borne juste à côté de l'orchestre qui répétait, et donc ils étaient sur la musique, je crois que c'était la musique de Chun-Li. Et donc on faisait notre match de street avec un orchestre qui jouait à côté de nous, et c'était juste méga classe. Voilà. Et après donc la compétition a démarré dans le dur, donc là on a un peu plus tu me vois sur les images parce que je suis derrière les joueurs, je suis au cœur du truc vraiment, c'est à dire que je regarde pas l'écran géant, non, moi je regarde sur leurs écrans à eux. Et puis on est là, on peut leur parler les impressions avant match, après match, etc. Et donc c'est assez cool parce que du coup on a pu suivre pas mal d'équipes
donc. Attention les ondes dangereuses. Donc tu as pu suivre 3 équipes.
Ouais,
crois,
on a suivi
portage.
On a suivi pas le spoiler, gros, 3 équipes, hein, mais... Voilà, donc on a suivi Courbevoie. On a suivi les challengers Lyon. Et on a pu aussi suivre une équipe de petits poussés entre guillemets, c'était Dijon. Voilà, et donc c'était super cool parce que du coup on a pu parler, donc notamment le tournoi en plus qui s'ouvre sur un Courbevoie Dijon. Donc la méga grosse équipe de Megastar avec Luffy contre les tout petits poussés de la compète. Et en fait c'était super parce que les gars ils ont réussi à ils ont perdu 5-2, Mais à côté de ça, chaque combattant de Dijon a réussi à au moins prendre un round. Et puis c'était serré. Et puis il y avait le public derrière qui poussait, bah forcément la petite équipe, tu vois.
Ah bah oui,
c'est un peu le même. Ça, tu
comme
vois, c'est un peu.
Quevilly ou.
Voilà. Non, pas.
Ou je sais plus quelle autre équipe. Carquefou étant en Coupe de France.
D'où tu me sens ces équipes-là, toi, Quevilly ou Carquefou là.
Bah c'est l'équipe de Coupe de France.
Non mais tu sais qui elles ont battu ces équipes-là.
Bah oui, PSG et l'OM.
Ouais, surtout Marseille, je crois. Hein. Ouais, bon, bref.
Ah,
bon.
Bah, je sais plus. Ouais. Je donne des noms comme ça, tu sais.
Carquefou, très mauvais souvenir. Bref.
Et donc, en termes d'organisation, est-ce que ça a été. Il n'y a pas eu de couac majeur.
Alors, si, on a eu. Il y a eu un petit bug qui était assez relou d'ailleurs. Hein, ça a fait perdre, je pense, au moins une heure sur l'event. C'est qu'en fait, il y a eu la mise à jour 4.50 de la PS4 la veille. Mm-hmm. Et en fait, cette mise à jour, eh ben, elle a rendu incompatible certains sticks. Parce que tu sais, les combattants viennent tous avec leurs propres sticks.
Bah, bien sûr.
Et du coup, quand ils les branchaient, bah, ça faisait des resets de console. Donc à un moment, par exemple, t'as un des gars de la team de Courbevoie, son stick, il a pas pu s'en servir, il a dû aller piquer le stick d'un des gars de la team Paris. Voilà. C'était en demi-finale, ça, je crois.
D'accord. Et maintenant, qu'est-ce que tu retiens parce qu'on va pas spoiler tout le reportage non plus, hein, on va peut-être pas exagérer, mais qu'est-ce que tu retiendrais en particulier de cette journée que t'as pu passer sur cet événement?
Bah, c'était assez épique en fait, hein. Ouais. On a vraiment vécu des belles sensations de sport tout simplement, voilà. Et c'était vraiment cool quoi. Donc on a eu des émotions, de la joie, des victoires, on a eu aussi des défaites, voilà, qui étaient cruelles. On a eu des petits poussés qui se battent contre les géants David, voilà, et on a eu des retournements de situation, enfin voilà. Non, c'était vraiment un tournoi qui était passionnant à suivre.
D'accord. Bon, bah en tout cas, vous pourrez le suivre bientôt sur Gameblog. Si c'est pas déjà le cas au moment où on parle, si vous n'êtes pas premium,
probablement.
Comme pour le test. Hein. D'ailleurs, tiens, Guillaume Dorisson, Asenka, grand joueur de jeux de baston et grand fan de jeux de baston.
Ah bah c'est lui qui est à l'organisation. L'event, voilà.
Absolument. Et qu'on salue d'ailleurs. Hein, donc, qui a réussi encore une fois à faire un bel event consacré aux jeux de baston. Et ça, c'est encore une fois, ça se passe à Paris, au Grand Rex. Et dans quelques mois, dans deux mois. Attendez, en mars, avril, mai, bah oui, dans deux mois, il y aura le Red Bull Comité qui lui aussi va être un gros moment de.
C'est toujours Salvagram
de
ou pas
Street Fighter. Ouais, Salvagram à Paris, absolument, un gros moment de Street Fighter 5 avec quand même là 14 grosses stars mondiales, dont Luffy encore
très,
une fois,
très lourd là,
qui seront invités à se mettre sur la gueule sur Street Fighter 5. Ça va encore être du très lourd, surtout que le Red Bull Comité, ouais, c'est quand même aussi une scénographie avec la cage.
Moi, je sais que je l'avais loupé l'an dernier, Julien m'avait demandé d'y aller.
Ouais.
J'avais pas pu malheureusement, mais c'était
Cette année, tu vas faire un forcing pour y aller, c'est ça?
Bah, j'espère oui, j'espère bien y aller.
Ça serait, en tout cas, je pense qu'à vivre, c'est quelque chose. Moi, ça me rappelle un peu l'époque des tournois PES.
Ah bah, en plus, je veux dire, en tant que journaliste là, bah, j'étais pas Paganelli, voilà.
Ah, c'est-à-dire que t'avais un accent pourri et quand tu parles en anglais, non? Je sais pas, je comprends pas.
Non, non, mais j'étais au bord du terrain et j'étais vraiment en première loge du spectacle. Voilà.
Bon. Donc... Et ça te fait kiffer. Mais tu t'es amélioré du coup? Ils t'ont donné des conseils?
Non, moi, il faut
Parce que je te rappelle que je t'ai déjà battu une fois à Street Fighter 5. Ce qui est quand même une honte. Il faut le savoir, hein. Parce qu'il n'y a pas plus pourri que moi à Street Fighter, je pense. Peut-être Trace.
Street, c'est pas mon jeu. Hein. Street, ça a été mon jeu sur Super Nintendo.
C'est plus Guilty Gear ?
Oui, Guilty, j'ai pas mal joué. Là, mes jeux, en fait, ça fait quelques années que c'est Dead or Alive.
Ah.
Voilà, le 5. Mmh. Avant ça, c'était BlazBlue. Mmh. Et le jeu sur lequel j'ai vraiment le plus dosé, c'était Soul Calibur.
Ah,
où j'ai fait un
mais c'est le premier.
J'ai fait un top 1000 mondial sur le 4 quand il était sorti sur le live.
Top 1000 mondial. C'est-à-dire
ouais, pendant un mois, j'étais dans les 1000 meilleurs joueurs du monde. Voilà.
Ok, alors monsieur va pouvoir se voir féliciter avant la fin de ce podcast. Bravo monsieur. Je vais vous appeler votre majesté.
Sur mon jeu du moment, donc qui est Dead or Alive 5, j'ai fait un truc assez ouf, c'est que j'ai fait un strike de 26 victoires de suite en ligne.
Mm-hmm.
Voilà.
D'accord.
Bon, le 27e, il m'a défoncé. Mais j'ai battu 26 joueurs d'affilée sans perdre.
J'essaie de voir.
Mais ça, j'en étais assez fier.
D'accord, bah, je voulais savoir si tu veux une médaille, non? Ou un truc comme ça?
T'as ça?
Bah, je pense que j'ai ça.
Non, mais t'inquiète, j'ai débloqué un titre et je l'ai mis sur mon profil.
Mais je vais aller chercher le médaille. Dès qu'on aura fini ce podcast, d'ailleurs, ce podcast, messieurs, dames, touche à sa fin. Oh. Ça y est, on en finit avec cette semaine d'actualité qui est encore une fois très chargée. Et Dieu sait que c'est pas fini, hein, que cette année de jeux vidéo continue encore une fois sur les chapeaux de roue.
Oh, là, ça on va se calmer un petit peu là. Non, non, janvier, février, mars, c'était de la folie. Hein.
Regarde ces valises, t'as l'impression que ça se calme ? Non, ça se calmera jamais, malheureusement. Merci Johnny One,
merci
Camille, merci Poufy à la Réal, merci Romain qui n'est plus parmi nous, et merci surtout à vous de nous avoir suivis. Ainsi s'achève ce podcast de la rédaction. N'oubliez pas, comme à chaque fois à la fin d'un podcast, une fois que vous avez écouté, n'hésitez pas à aller commenter là juste en dessous, à nous dire ce que vous avez pensé du podcast, des différents sujets abordés. Si vous étiez, ça se trouve, bien présent à cet événement, la Coupe de France de Street Fighter 5, ça se trouve vous y étiez, ça se trouve... Bah ça se trouve t'as envie de faire une coupe aussi, t'as envie de faire le Rebel Comité, n'hésite pas. Il y a des news qui vous rappellent que on peut s'inscrire dès maintenant et qu'il y a même une compétition destiné aux étudiants qui est en place pour le Red Bull Comité.
Alors Red Bull Comité, je pense que c'est mort hein, parce que en fait
non il reste encore jusqu'au 22 avril.
Non mais en fait le délire c'est que les inscriptions justement
22 avril Student Sessions monsieur. Okay. Si tu es étudiant. D'accord. Tu es étudiant? Non toi tu es plutôt prof.
Plus maintenant. Plus trop.
Il y a une Student Session en fait qui a été mise en place. Okay. Pour permettre à des étudiants à différents endroits, notamment à l'Epitech, à des dates bien précises, de pouvoir se qualifier pour l'Open Qualifier du samedi, justement, du samedi 27 mai.
Non, parce que pour les participants normaux, c'est mort. Hein.
Ah oui, bien sûr.
Justement, ils ont annoncé à la fin de l'event Street Fighter, ouais. C'est samedi prochain à 21h. Mmh. Non, c'était le lendemain, le dimanche à 21h, le lendemain de la Coupe de France de Street. Mmh. Et ils ont l'année dernière, les places étaient... J'ai pas les chiffres pour cette année. Donc, ouais. Du coup, c'était dimanche dernier. Les places partent en 3 minutes.
Ah oui, mais de toute façon, c'est un événement qui est tellement prestigieux, tellement prisé que c'est normal. Bref, on va arrêter de parler de tout ça. On va aller décerner sa médaille à Johnny One juste après ce podcast. Merci encore de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre podcast de Gameblog. Et d'ici là, portez-vous bien et surtout...
Jouez bien.
Jouez bien. Ciao.
Ciao.
Salut.